Bonjour à tous.
La passion révolutionnaire me montait lentement à la tête. Elle s'exprimait tantôt par le mot « fulguration », tantôt par le mot « terreur ». Le nom de Lénine revenait souvent dans ses inscriptions tracées en noir, cependant semblables à des traces de sang.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où toute cette semaine, c'est avec Georges Bataille que nous cheminons, que nous faisons une expérience tout à la fois poétique, politique, érotique et sacrée. Hier, la poésie nous apparaissait ainsi comme la chance d'affronter le pire. Demain, l'érotique deviendra, on l'espère, l'autre de la transgression. Et jeudi, nous irons au-delà même de l'au-delà du bien et du mal, avec l'hypermorale de Bataille. Mais aujourd'hui, faisons la tentative de sa politique de l'impossible. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins fait l'impossible au jour le jour. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett. Avec à la lecture des textes cette semaine Jean Cotrel, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert. Paris, le 6 décembre 1937. Mon cher, le procès que vous me faites m'aide à m'exprimer avec une précision plus grande. J'admets que dès maintenant, l'histoire est achevée. Je me représente toutefois les choses autrement que vous. Mon expérience, vécue avec beaucoup de soucis, m'a conduit à penser que je n'avais plus rien à faire. J'étais mal disposée à l'accepter et comme vous l'avez vu, je ne me suis résignée qu'après m'être efforcée. Si l'action, le faire, est comme dit Hegel, la négativité, la question se pose alors de savoir si la négativité de qui n'a plus rien à faire disparaît ou subsiste à l'état de négativité sans emploi. Personnellement, je ne puis décider que dans un sens, étant moi-même exactement cette négativité sans emploi. Je ne pourrais d'ailleurs me définir de manière plus précise. Je veux bien que Hegel ait prévu cette possibilité, du moins ne l'a-t-il pas située à l'issue des processus qu'il a décrits. J'imagine que ma vie, ou son avortement, mieux encore, la blessure ouverte qu'est ma vie, à elle seule constitue la réfutation du système fermé de Hegel. La question que vous posez à mon sujet revient donc à savoir si je suis négligeable ou non. Je me la suis souvent posée, hantée par la réponse négative. Comme la représentation que je me fais de moi-même varie et qu'il m'arrive d'oublier, comparant ma vie à celle des hommes les plus remarquables, qu'elle pourrait être médiocre, je me suis souvent dit qu'au sommet de l'existence, il pourrait ne rien y avoir que de négligeable. Personne, en effet, ne pourrait reconnaître un sommet qui serait la nuit. Quelques faits, comme une difficulté exceptionnelle éprouvée à me faire reconnaître, m'ont amené à prendre sérieusement, mais gaiement, l'hypothèse d'une insignifiance sans appel. Jean-Michel Beignet, bonjour et bienvenue.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne et l'on vous doit un essai, Georges Bataille, la politique de l'impossible, qui est paru dans une édition enrichie en 2014 aux éditions Cécile Defaux. Alors Jean-Michel Beignet, je viens de lire une lettre que Georges Bataille adresse à Alexandre Kojève, c'est donc le 6 décembre 1937. Alexandre Kojève qui est alors chargé de cours sur Hegel et que Bataille suit assidûment. Et Bataille emploie cette expression de négativité sans emploi. À la fin, il parvient même à l'hypothèse qu'il est d'une insignifiance sans appel. À partir de là, on peut se demander à quoi bon réfléchir sur la politique chez Bataille, c'est-à-dire cette politique de l'impossible. Mais on pourrait d'abord se demander s'il n'y a pas une impossibilité de la politique chez Bataille.
Vous comprenez que vous commencez cette émission avec une lettre qui pourrait faire toute l'émission, parce que la commenter, la décrypter, la référer à tout ce qu'elle suggère, ce serait vraiment un vrai travail. Mais on peut prendre les choses très simplement en disant, voilà, Bataille a suivi les séminaires de Kojève, dans lesquels Kojève expliquait comment, au fond, Hegel démontrait que l'histoire était achevée en 1806. Donc, l'histoire se déroule pour Hegel sur le mode de l'opposition, essentiellement entre le maître et l'esclave, entre tout ce qui relève de la maîtrise et de la servitude. Et l'histoire s'achève pour lui au moment où l'esclave va se révéler en réalité le maître du maître, donc va finalement faire basculer le rapport de force en direction de celui qui travaille. Et l'aboutissement pour Kojève, c'est la naissance ou l'apparition du citoyen universel, qui n'est plus ni maître ni esclave, tout en étant un petit peu les deux. Il est esclave parce qu'il se soumet au droit, il est maître parce qu'il fait la loi. Bon, en gros, c'est un schéma que Bataille qualifiera d'automatique. L'histoire fonctionne selon des lois et se déroule vers sa fin, avec une grande automaticité. Et 1806, pourquoi 1806 aux yeux de Kojève? Parce que c'est l'époque où Napoléon érige le droit et l'impose à l'Europe. Donc on a désormais des cadres qui vont régenter, rationaliser en quelque sorte l'histoire des hommes. Et donc l'histoire est achevée. Au dénouement près, il y aura encore des petites choses, il y aura encore des petites guerres, ça et là, mais en gros, c'est terminé. Bon, alors Kojève a un petit peu varié, il a dit, oui, c'est en 1806, après il a dit, non, c'est plutôt en 1917 que l'histoire s'achève, et puis il a même dit, c'est en mai 68. Enfin bref, il y avait quelque chose d'un petit peu chaotique dans les propositions. Toujours est-il que Bataille écrit cette lettre à Kojève pour dire, bon, je suis d'accord, Hegel, le système de Hegel me convainc parfaitement.
Parfaitement, il s'y est résigné, il a accepté, mais
on ne peut pas faire autrement. C'est une espèce d'évidence qui pèse sur moi. C'est vrai. Je suis donc dans la situation de devoir accepter de ne plus rien avoir à faire. Pourquoi? Parce que l'histoire, pour Hegel, elle fonctionne à la négativité. C'est la négation qui est le processus même de l'histoire. Donc, au terme de l'histoire, il n'y a plus de négativité, en principe. S'il y a une négativité, elle n'est pas capable de réamorcer un processus historique. Donc cette négativité, elle est sans emploi. Et donc, c'est comme ça que Bataille va se décrire. Il dit, moi, je me sens comme une négativité sans emploi. C'est-à-dire que je ne me sens pas réconcilié par l'histoire. Si j'étais réconcilié, je n'aurais plus besoin de nier. Or, je me sens toujours une puissance de négation dans l'histoire. Et je ne peux pas utiliser cette puissance de négation pour aller plus loin. Et je suis, de ce point de vue-là, quelque chose comme une existence déchirée. Déchirée parce que je me sens un être limité et je ne peux pas me contenir dans les limites qui sont les miennes. Donc je suis dans un pathos permanent.
Donc Bataille ne s'est pas complètement résigné au fait que c'était la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il continue de vouloir employer ses forces à faire quelque chose, mais sans faire quelque chose. Et là, et toute la difficulté de comprendre l'entreprise politique de Georges Bataille. C'est qu'il y a une force, mais qui est une pure dépense qui n'est employée à rien.
En gros, c'est effectivement cela. Il est dans la posture, surtout dans les années 30, dans ces années extrêmement troublantes, perturbées. Il est convaincu d'être dans une époque qui est quand même très très marquée par l'apocalypse, par la fin quelque chose, la fin des démocraties, enfin, etc. Et il est dans cette posture de se demander effectivement comment on fait dans ces cas-là. Et ce à quoi il assiste quand même, c'est à des mouvements de révolte, mais des mouvements de révolte qui sont sans projet. Il a le sentiment que dans cette période révolutionnaire qu'il connaît, eh bien, ce qui marque d'abord et avant tout, c'est la passion révolutionnaire. La révolution est une passion, est un pathos. C'est une révolution à gauche, c'est une révolution à droite, une révolution socialiste, national-socialiste, c'est la révolution prolétarienne, etc. On a affaire à des dynamiques qui ne s'investissent pas dans quelque chose comme un projet. Ou en tout cas, qui ne sont pas assumables en tant que projet.
Mais oui, là est le problème. Dire que l'histoire est finie et l'accepter, c'est non seulement un problème sur le plan de l'action, de l'agir, mais aussi sur le plan du projet. Et dès qu'on emploie ce terme de projet, on pense à cette époque, évidemment, à Jean-Paul Sartre, qui est un intellectuel engagé. Et quand on pense à Georges Bataille, on ne pense pas du tout à sa politique. Or, il présente peut-être une figure, un modèle concurrent à l'intellectuel engagé qu'a imposé Sartre.
Assurément. Bon, et puis il est parti beaucoup plus tôt. Là, le Bataille dont on parle, c'est 1933, 1934.
C'est les années 30, oui.
Bon, et Sartre est très très loin de la problématique de l'engagement qu'il va surtout formuler au moment de la guerre. Donc, à ce moment-là, quand même, Bataille, biographiquement, pactise avec les idéologies révolutionnaires. Il est proche de Souvarine en 1933, il travaille pour l'organe de Souvarine qui s'appelle La Critique Sociale. Souvarine, bon, est assez proche de Trotsky, en tout cas on a un culte de Lénine assez prononcé à ce moment-là, donc on pourrait dire que Bataille entre en politique avec l'image de Lénine, donc du révolutionnaire, du révolutionnaire un petit peu romantique, disons-le comme cela, en tout cas d'un révolutionnaire qui fonctionne beaucoup au charisme et à l'empathie. Bon, ça va pas, il va pas rester longtemps sur cette position-là, mais en tout cas c'est ça qui le marque au départ. Il a le témoignage là avec Lénine, de quelqu'un qui est porté, est poussé, en quelque sorte, à assumer une activité qui se présente comme une négativité, évidemment, mais dont la révolution a valeur en elle-même, en quelque sorte. C'est pas la révolution pour faire advenir la fin de l'histoire et le communisme, mais c'est la révolution en tant qu'elle polarise des forces du refus. Là, il faudrait juste une petite explication sur la manière dont Bataille va penser le fascisme.
On va écouter un texte justement sur la structure psychologique du fascisme, qui est un texte de Georges Bataille.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Avaria, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Le pouvoir fasciste est caractérisé en premier lieu par le fait que sa fondation est à la fois religieuse et militaire, sans que des éléments habituellement distincts puissent être séparés les uns des autres. Il se présente ainsi dès la base comme une concentration achevée. L'aspect prédominant est, il est vrai, l'aspect militaire. Les rapports affectifs qui associent, identifient étroitement le meneur aux membres du parti sont analogues en principe à ceux qui unissent le chef à ses soldats. La personne impérative du meneur a la portée d'une négation de l'aspect révolutionnaire fondamental de l'effervescence drainée par lui. La révolution affirmée comme un fondement est en même temps fondamentalement niée dès la domination interne exercée militairement sur les milices. Mais cette domination interne n'est pas subordonnée directement à des actes de guerre réels ou possibles. Elle se pose essentiellement comme moyen terme d'une domination externe sur la société et l'État, comme moyen terme d'une valeur impérative totale. Ainsi sont impliquées simultanément les qualités propres des deux dominations, interne et externe, militaire et religieuse. Qualités relevant de l'homogénéité introjectée, telles que devoir, discipline et ordre accompli, et qualités relevant de l'hétérogénéité essentielle, violence impérative et position de la personne du chef comme objet transcendant de l'affectivité collective. Mais la valeur religieuse du chef est réellement la valeur fondamentale, sinon formelle du fascisme, donnant à l'activité des miliciens sa tonalité effective propre, distincte de celle du soldat en général.
Jean-Michel Meignet, on vient d'entendre, alors c'est un texte assez difficile, c'est un texte de Georges Bataille, donc c'est la structure psychologique du fascisme, qui est un texte précoce puisqu'il paraît en 1933. On vient de l'entendre interprété par notre comédien Jean Cottrel, et dans ce texte, on entend que Bataille fait l'analyse du fascisme qui reposerait sur deux dimensions, une dimension à la fois militaire et une dimension religieuse. C'est aussi ce qu'on a entendu dans l'archive de Mussolini quand il déclare, quand il fait son discours de déclaration de guerre à son peuple en 1940. Et Bataille emploie ces deux termes d'homogénéité et hétérogénéité. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ?
Oui, je crois que c'est important d'expliquer tout cela. D'abord, il faut dire que écrire un texte qui s'appelle « La structure psychologique du fascisme », c'était une manière de déclaration de guerre théorique au marxisme, qui ignorait complètement la composante psychologique du fascisme et qui expliquait tout en termes d'infrastructures et de superstructures.
Bon, et qui rabattait tout sur l'économique, en fait, absolument. Sur les relations économiques entre les hommes.
Exactement. Donc, on faisait l'impasse complète sur la dimension psychique. Et Bataille, donc, écrit ce texte en sachant très bien qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on pensait à peu près autour de lui. Alors, quelle est la situation pour lui ? La situation qu'il a à montrer pour pouvoir expliquer l'émergence du fascisme est de dire ceci. Au fond, les démocraties, à l'époque, sont déliquescentes, elles sont exsangues, elles sont complètement désubstantialisées. C'est les républiques extrêmement chaotiques qu'on connaît en France, qu'on connaît un petit peu partout en Europe. Et il décrit ces démocraties déliquescentes comme homogènes. Les systèmes sociaux, les sociétés civiles, sont des sociétés qui reposent sur l'impératif de production. Impératif de production dans laquelle les individus sont atomisés les uns et les autres. Ce sont des êtres productifs, ce sont des êtres qui travaillent.
Et des êtres nivelés en même temps.
C'est des êtres qui sont unidimensionnels, qui sont nivelés. Cela étant, la démocratie, ça ne marche plus à l'époque. Donc il y a une déliquescence. Il y a du chômage, il y a le crack économique de 1929, enfin qui crée une situation vraiment explosive. Et la déliquescence de cette homogénéité va produire des marginaux, des rejetés. Et ces rejetés, on va les inscrire dans quelque chose qu'on appellera l'hétérogénéité. Et l'hétérogénéité, Bataille considère que, bon, elle va être polarisée par les mouvements antidémocratiques et donc fascistes qu'on voit monter à l'époque. Donc le prolétariat, le Lupin prolétariat, hein, les laissés pour compte vont créer une situation de marginaux qui sont dans l'indigence. Et ce qui va se produire, c'est que le chef, les meneurs fascistes vont créer eux aussi une situation de marginalité, un hétérogène, mais un hétérogène que Bataille qualifie de supérieur. Donc il y aura un hétérogène inférieur, celui du prolétariat, un hétérogène supérieur, celui des meneurs fascistes, qui vont fonctionner sur la base de comportements propices à la religiosité des foules, rassemblement des foules, et puis aux militaires, organisation donc qui mime en quelque sorte ce qu'il y aurait eu dans la composante homogène, hein, les militaires, l'organisation militaire, etc. Et ce qui va se produire, c'est que ces meneurs fascistes vont aspirer en quelque sorte l'hétérogène inférieur que constitue le prolétariat, et puis les classes moyennes complètement déclassées qui vont rejoindre ce prolétariat. Et donc on va assister à cette espèce de montée en puissance de cet hétérogène, hein, qui va en quelque sorte capter les forces complètement indigentes de la société civile. Et c'est comme ça qu'il explique les choses, et c'est comme ça qu'il met en évidence, en quelque sorte, cette passion révolutionnaire. On est bien dans une passivité. Il y a une passion révolutionnaire. C'est la passivité des marginaux qui étaient laissés pour compte, qui va être mise en action par les meneurs fascistes et qui va conduire précisément à la constitution de l'État totalitaire.
Alors c'est une analyse très actuelle finalement que Georges Bataille produit des démocraties, c'est-à-dire que d'un côté il dénonce la dimension homogénéisante des démocraties, mais aussi leur capacité à produire de l'hétérogénéité par le bas, on va dire. Et d'un autre côté, il critique aussi le fascisme, puisque ce fascisme réinjecte de l'hétérogénéité, et en même temps il critique aussi la passion révolutionnaire quand elle prend cette dimension-là. Alors finalement, Bataille ne fait que critiquer, et en même temps, il ne peut pas dire qu'il est contre la démocratie, il ne dit pas non plus complètement qu'il est contre le fascisme, ça lui a d'ailleurs valu beaucoup d'attaques, et évidemment, il n'est pas contre la révolution. Donc en fait, soit on ne le situe pas, soit on le situe trop.
Bon, c'est bien que vous mettiez, si je puis dire, les pieds dans le plat en signalant que effectivement on a reproché à Bataille une position un petit peu ambiguë. Parce que qu'est-ce qu'on fait effectivement dans cette situation-là? Est-ce qu'on joue la carte de la démocratie à cette époque-là pour faire pièce au fascisme? Bataille dit non. Regardez, les démocraties, elles ont été pacifistes, elles se sont laissées imposer la domination totalitaire. Elles sont pas capables.
Elles ont même peut-être produit cette domination totalitaire.
Alors son choix à lui, je le dis de manière brutale, c'est de dire non. Il faut lutter pied à pied contre le fascisme en produisant un contre-pouvoir à ce fascisme. Alors comment faire? Eh bien, le fascisme, il a joué du sacré et du mythe pour aspirer l'hétérogène inférieur du prolétariat. On a mis en évidence le mythe du Troisième Reich, le mythe de l'homme invulnérable dans le fascisme. On a sollicité du sacré. Hein, on a joué de ce sacré, etc. Eh bien, c'est là-dessus que Bataille dit qu'il faut jouer. Il faut produire un contre-sacré, il faut produire un contre-mythe. Hein. Et donc, il crée à ce moment-là un mouvement avec André Breton qui s'appelle Contre-attaque, qui a ce projet d'insuffler un mythe révolutionnaire qui soit objecté au fascisme et au nazisme montant à l'époque. Et par la suite, il va créer un mouvement, une communauté qui s'appelle le Collège de sociologie sacrée, hein, où on va étudier dans ce collège, la notion de pouvoir, la notion de sacré et la notion de mythe. Hein, ce sont des objets intellectuels qui vont associer Léris, Caillois, Jules Monroe, etc. Avec cette idée qu'il faut forger des armes qui soient capables de rattraper en quelque sorte l'hétérogène inférieur que constitue le prolétariat et les classes moyennes, hein, pour remédier quand même à une situation de déliquescence qui est celle des démocraties, hein, sans tomber dans cette domination totalitaire qui est honni par Bataille.
Mais réinjecter finalement du sacré, pourquoi, pour qui et par qui? Parce que là, on peut aussi commencer à évoquer le problème de la souveraineté, c'est-à-dire que qui va être en charge de penser ce sacré et de le réinjecter, si ce n'est un homme qui va se définir comme souverain et qui va soumettre un autre ensemble d'hommes à lui?
Pourquoi un homme? Pourquoi un homme providentiel, unique, qui aurait tout le charisme? Pourquoi polariser le sacré sur cette figure du Führer ou du Duce ou, c'est pas nécessaire, ça, c'est pas indispensable, hein, que ça se focalise sur un homme. Ce que Bataille entreprend, et qui est effectivement beaucoup plus difficile, beaucoup plus périlleux, c'est inviter, c'est trop peu, mais c'est de rendre évident la nécessité pour les contemporains de cette fin de l'histoire apocalyptique de vouloir entreprendre d'exister pleinement, entièrement, intégralement. Et de ce point de vue-là, la position de Bataille, c'est une position éminemment philosophique et à la limite mystique, hein, qui consiste à dire que opérer sur soi-même cette entreprise qu'il a appelée l'expérience intérieure à un moment donné, entreprendre sur soi-même cette expérience de vouloir aller jusqu'au bout de son existence, de ne pas se laisser couper, de ne pas se laisser déposséder par soi-même, en étant instrumentalisé, en étant embrigadé, c'est ça qui peut constituer le ferment de la résistance au fascisme. La résistance au fascisme, elle peut passer par cette espèce d'ascèse individuelle à laquelle la poésie, l'érotisme, l'art, le jeu, tout ça peuvent contribuer.
Filez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches bas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues si ça vous tente, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Vous êtes sur France Culture, sur les nouveaux chemins de la connaissance, dans une semaine consacrée à Georges Bataille. Et pour ce deuxième moment, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Beignet, professeur de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, auteur notamment de Georges Bataille, la politique de l'impossible, disponible aux éditions Cécile Defaux, mais auteur aussi de L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, c'est aux éditions Fayard, Demain les post-humains aux éditions Fayard aussi, et puis aussi toujours sur Georges Bataille, Éloge de l'irrespect, c'est aux éditions Descartes et Compagnie.
Ouais, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On fais-le.
Nous pouvons dire qu'il est servile d'envisager d'abord la durée, d'employer le temps présent au profit de l'avenir, ce que nous faisons quand nous travaillons. L'ouvrier produit un boulon en vue du moment où ce boulon servira lui-même à monter la voiture dont un autre jouira souverainement dans des promenades contemplatives. L'ouvrier n'a pas en vue personnellement le plaisir souverain du futur possesseur de la voiture. Mais ce plaisir justifiera le paiement que le possesseur de l'usine espère et qu'il autorise à donner sans attendre un salaire à l'ouvrier. C'est pour obtenir ce salaire que l'ouvrier tourne le boulon. En principe, le salaire lui permettra de subvenir à ses besoins. Ainsi ne sort-il en aucune mesure du cercle de la servitude. Il travaille afin de manger, il mange afin de travailler. Nous ne voyons pas arriver le moment souverain où rien ne compte sinon le moment lui-même. Ce qui est souverain, en effet, c'est de jouir du temps présent, sans rien avoir en vue sinon ce temps présent. Je le sais, ces énoncés sont théoriques, ils ne rendent compte des faits que vaguement. Si j'envisage le monde réel, le salaire de l'ouvrier lui permet de boire un verre de vin. Il peut le faire, à ce qu'il dit, pour se donner des forces, mais à vrai dire, il le fait dans l'espoir d'échapper à la nécessité qui est le principe du travail. À mon sens, essentiellement, si l'ouvrier s'offre le verre, c'est qu'il entre dans le vin qu'il avale un élément miraculeux de saveur qui, justement, est le fond de la souveraineté.
Jean-Michel Beignet, nous voici donc venus à la question de la souveraineté grâce à ce texte interprété par Jean Cottrel, extrait donc justement d'un texte qui s'appelle « La souveraineté » qui devait être au début la troisième partie de « La part maudite ». Ce texte a été écrit en 1953, donc 20 ans après le texte qu'on a entendu tout à l'heure sur la structure psychologique du fascisme. Et entre-temps, Bataille a pu élaborer, développer ce concept de souveraineté. On y entend que la souveraineté, telle qu'il l'a définie, est l'envers de ce qu'on entend habituellement par là, c'est l'envers du pouvoir, c'est le fait d'être dans le pur présent.
Absolument. C'est le fait de pouvoir jouir du présent et d'être délivré du projet. Et ça, c'est l'obsession de Bataille dans toute son œuvre, à peu près, mais ça culmine essentiellement dans L'expérience intérieure, hein, qui est un livre dont Bataille dit qu'il entreprend le projet de se délivrer du projet. Hein, comment faire pour, finalement, se mettre dans la position de pouvoir se délivrer de cet assujettissement au temps, hein, qui constitue notre servilité majeure. Il faut dire aussi que le Bataille de la maturité pense le communisme, par exemple, comme la manière de restituer aux humains le temps. C'est de cela qu'il s'agit, retrouver le temps.
Alors, est-ce un mal, justement, de retrouver le temps s'il s'agit d'être dans un pur présent et que l'histoire est finie et que l'on doit renoncer au projet ?
C'est assurément pas un mal, c'est même le bien souverain, si je puis dire.
Restituer le temps dans le sens d'être dans le présent, restituer le temps dans le sens de projet.
C'est refuser d'ajourner l'existence à plus tard. C'est une expression d'ailleurs que Bataille emploie volontiers. Refuser d'ajourner l'existence à plus tard. Or, toutes les activités que nous menons sont une façon de sacrifier le présent à quelque chose d'autre. Je travaille pour ceci ou pour cela. Travaillant, je renonce à vivre. Je suis toujours dans cette espèce de fuite en avant qui me conduit à toujours ajourner le moment de jouir. Et c'est pour ça que la problématique de la fin de l'histoire était importante, puisque à la fin de l'histoire, on avait le sentiment que on serait restitué à l'existence, qu'on vivrait une existence qui ne serait plus historique, donc évolutive. Kojève, qu'on a évoqué, il disait, oui, qu'est-ce que va faire l'homme à la fin de l'histoire? Il a trois possibilités. Il peut faire l'amour, il peut jouer, où il peut se livrer à des activités artistiques. Trois activités qui sont à fond perdu, qui ne produisent pas quelque chose de réutilisable dans un processus historique. Et Bataille, bah, il est un petit peu là-dedans. Il pense que le souverain sera caractérisé peu ou prou par l'une de ces trois activités, parce que c'est la manière de traduire sa puissance vitale, hein, dans un contexte où cette puissance vitale n'est pas susceptible d'être accaparée, dévoyée, récupérée à des fins de production et d'histoire.
Mais c'est à la fois un très beau projet, c'est-à-dire qu'en ouverture de ce texte sur la souveraineté, Bataille le dit, il dit « je ne vais pas définir la souveraineté comme l'a défini le droit international. Je vais parler de cette qualité essentielle qui appartient à tous les hommes. » Il dit que c'est un aspect opposé dans la vie humaine à l'aspect servile et désordonné, qu'elle caractérise donc tous les hommes, même le mendiant qui est peut-être plus proche de la souveraineté que le dignitaire ou qu'un dieu sacré. Néanmoins, c'est une vision à la fois élargie, et on ne peut que saluer Bataille là-dessus pour la souveraineté, mais en revanche, c'est une conception complètement aveuglée, naïve, c'est-à-dire que dans le texte qu'on a entendu sur l'ouvrier qui boit son verre de vin, néanmoins, il a beau jouir du temps présent et se avaler ce verre de vin qui est le fond de la souveraineté, c'est d'ailleurs une très belle phrase, il est quand même asservi à son patron, au salaire, c'est-à-dire que comme si Bataille n'avait pas pris en compte le fait que on peut très bien jouir du temps présent et être souverain à un moment donné, et de l'autre être asservi.
Oui. C'est vrai, vous avez raison d'être sévère à l'égard de Bataille, dont on peut considérer que quand il déploie son argumentation en faveur de la souveraineté, il est dans une posture de démobilisation, si c'est ça que vous voulez dire, oui.
Ou d'aveuglement.
Il y a de ça. D'aveuglement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ce qu'il voit fondamentalement, c'est que cette souveraineté, elle est la condition même du lien entre les individus. La communication entre les individus exige cette souveraineté. Parce que quand je suis dans la production, quand je suis dans le travail, quand je suis dans l'instrumental, je ne communique pas. Je ne communique pas. L'autre est toujours mon instrument et je suis toujours l'instrument d'un autre. Je suis instrumentalisé d'une manière générale. Hein. Je suis exploité ou j'exploite. Hein. Seule une activité non finalisée, seule une activité qui me dégage de l'utile me met en possibilité d'être en communication avec l'autre. C'est-à-dire le lien social, il suppose cette souveraineté. Et Bataille l'avait expérimenté en écrivant La Part maudite, hein, où il analysait la société aztèque, où il analysait les sociétés qui fonctionnaient au potlatch, hein, et il remarquait à chaque fois que c'était dans le sacrifice de l'utile, et tout sacrifice est sacrifice de l'utile, hein, qu'on sacrifie l'esclave, on sacrifie les richesses, etc. C'est dans ce sacrifice-là que les hommes communient. Hein, je n'aime pas beaucoup le mot, mais il convient bien. C'est dans le sacrifice que les hommes communient, c'est-à-dire que ça passe de l'un à l'autre. Hein, autrement dit, cette souveraineté, telle qu'il la décrit, elle a valeur subversive. Elle est une valeur qui invite à se délier d'une société productive et instrumentalisatrice, hein, si je puis dire les choses comme ça. Donc, il ne faut pas minimiser cette part de ce potentiel révolutionnaire qui reste chez Bataille au moment où il pense la souveraineté, où effectivement il n'est plus dans l'action et dans l'action révolutionnaire telle qu'il l'a endossée dans les années 30, hein, où il a payé un petit peu de sa personne, etc. Il est dans une posture qui est plus philosophique, hein, d'une certaine façon,
hein, où il dit d'ailleurs qu'il est seulement théorique. Hein.
Oui, c'est ça. Il s'en excuse presque. Hein. Il dit mais finalement résister à un monde qui nous conduit toujours à ajourner l'existence à plus tard, ça passe par cette espèce d'expérience sur soi, qui est une expérience d'insignifiance, hein, parce que c'est l'expression qu'il employait tout à l'heure, hein, dans la lettre à Kojève, d'insignifiance. Pourquoi il dit insignifiant? C'est parce que Hegel disait que à la fin de l'histoire, il y aura encore du contingent, c'est-à-dire des choses qui peuvent être ou qui peuvent pas être, ça sera pas important puisque ça n'entrera pas dans le processus historique. Ben oui, on n'est plus dans le processus historique, on est peut-être dans l'insignifiance, mais cette insignifiance, elle peut être le ressort d'une subversion.
Collège, c'est le sacré collège, et pas un collège comme un lycée. C'est l'instance supérieure d'une église. Et le mot collège a été choisi à cause de ses résonances et de ses connotations, comme on dirait aujourd'hui, religieuses, et pas du tout universitaires. Et nous entendions faire une sociologie active, nous disions même activiste, dans le manifeste du collège de sociologie, qui est tout ancien de ma main. Je crois qu'il y a le mot activiste, pas du tout au sens qu'il devait prendre 20 ans plus tard, bien entendu, avec les événements d'Algérie, mais activiste et pas actif. Activiste, c'est-à-dire destiné à secréter et à provoquer une activité contagieuse. Mais quand nous disions, quand nous parlions du sacré actif, c'était ça que nous voulions dire. C'est un sacré ressuscité, un sacré vivant, un sacré épidémique. Et nous suivions de très près, non seulement Durkheim, mais Mauss, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que nous pensions que le sacré, c'est une propriété d'une communauté. Nous distinguions naturellement avec les sociologues allemands communauté et société. Société étant une organisation à base de commerce, de profit, de bonnes relations, enfin quelque chose d'administratif, tandis que communauté étant quelque chose qui était supporté par un élan et qui prenait beaucoup plus l'être de chaque personne qui en faisait partie et qui pouvait la transformer, l'amener dans les frénésies, à l'extase. Enfin, une communauté, c'était quelque chose qui était capable de fête, si vous voulez.
C'est une banalité d'affirmer qu'entre les hommes existe une difficulté de communication fondamentale. Et il n'est pas mauvais de reconnaître à l'avance qu'il s'agit d'une difficulté en partie irréductible. Communiquer veut dire essayer de parvenir à l'unité et d'être à plusieurs un seul, ce qu'a réussi à signifier le mot « communion ». Or, il y a toujours quelque chose de manqué dans la communion que des hommes cherchent de façon ou d'autre, poussés par le sentiment que la solitude est l'impuissance même. Nous devons forcément jouer notre vie, ce qui implique entrer dans un mouvement réunissant d'autres hommes semblables à nous. C'est absolument nécessaire à la vie des corps et nous mourrions rapidement si nous n'avions pas eu soin de nous insérer dans un système d'échange économique. Ce n'est guère moins nécessaire à la vie des esprits et la différence la plus profonde tient peut-être au fait que l'esprit peut mourir d'inanité sans véritable souffrance. Mais alors que les problèmes économiques sont malgré tout solubles et qu'il est relativement facile d'atteindre un état de saturation de l'intestin, l'esprit qui cherche à vivre sur son plan d'esprit n'a pas seulement, pour établir entre ses semblables et lui quelques liens spirituels à vaincre des difficultés, même s'il réussit, la question de l'authenticité se pose encore. Cette question se pose en réalité toujours. Il y a toujours un je ne sais quoi de frelaté et d'insuffisant dans les contacts spirituels entre les hommes. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas trop demander à quiconque persiste à vouloir vivre entièrement, de ne pas faire trop de manières, et puisqu'il y a toujours de la boue quand la vie a lieu, de s'habituer à la boue. Jean-Michel Beignet, alors on a évoqué hier à propos de la poésie, sa dimension communautaire, sa dimension qui permettait la communication. Vous avez vous-même évoqué ce terme, c'est ce que Bataille a tenté de faire avec les nombreuses revues auxquelles il a contribué ou qu'il a fondées. C'est aussi le cas avec le Collège de sociologie dont parlait Roger Caillois dans une archive qu'on vient d'entendre du 20 avril 1977, archive très intéressante dans laquelle il distingue la communauté de la société qui, elle, serait fondée sur des rapports utiles. Et juste après, j'ai lu ce texte que vous citez à la fin de votre ouvrage sur Bataille, la politique de l'impossible. Ce texte qui date de la fin des années 30, où Bataille nous dit, pardon, c'est un texte de 1942, où Bataille nous dit finalement, il y a quelque chose de toujours manqué à la communication, mais on est bien obligé de s'y faire. Alors, comment comprendre ce rapport de Bataille à la communauté ? Est-ce qu'il s'y est soumis parce qu'il ne pouvait pas faire autrement ? Est-ce qu'il a voulu promouvoir un autre un autre modèle de communauté? Comment on peut allier à partir de là la souveraineté individuelle, le plaisir, la jouissance individuelle avec cette jouissance collective?
Oui, bah, d'abord, Bataille considère, quand il parle de société, il en parle souvent à la manière de Durkheim, une société mécanique, organisée. Où les choses sont situées, où les choses sont interconnectées fonctionnellement. La société a une fonctionnalité. La communauté, elle est plus de l'ordre du religieux. Elle lie des individus sur le mode de la contagion, comme disait Caillois. La contagion, hein. C'est extrêmement important. On n'est pas dans le mécanique, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'organique, presque du biologique. Et Bataille a toujours été hanté par une espèce de métaphysique de la continuité. Il est persuadé qu'il y a un continuum entre les individus, un continuum fondamental, que la vie sociale nous conduit à segmenter et à couper. Sartre sera un petit peu dans la même posture dans la Critique de la raison dialectique lorsqu'il pensera le groupe en fusion, hein, où il montrera que les sociétés peuvent fonctionner de manière mécanique, et puis à un moment donné, il y a des moments parfaits, des moments souverains d'ailleurs, Sartre appelle aussi ça moment souverain, où se focalise et se trouve exalté la communauté. Ce qui fait que la notion de communication, elle n'est pas du tout opposée chez Bataille à une espèce de consentement à la solitude. Non, il se trouve que nous communiquons toujours fondamentalement de manière désintéressée, sans le vouloir. On ne fait pas le projet de communauté, hein, de communiquer. On est dans une posture de désintéressement à certaines heures de notre existence, dans une posture de désintéressement quand on fume, par exemple, parce que dans le texte que vous avez évoqué, il évoque la cigarette, le pouvoir de la cigarette, hein, qui nous met en position de communiquer les uns avec les autres, parce que on se livre à une activité de désintéressement, donc on se délie de toute fonctionnalité et on est comme en générosité par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à l'environnement.
C'est le cas de l'amitié, en fait, et de l'amour.
Mais c'est le cas de l'amitié, c'est le cas de l'amour, c'est le cas de la révolution, où on est en cru également, hein, où on déborde. C'est le cas de toutes les comportements qui appellent l'extase. Qu'est-ce que c'est l'extase? Sinon la sortie de soi, hein, la sortie de soi qui nous permet précisément d'être dans l'autre, avec l'autre, pour l'autre.
Mais la différence entre l'amour et la révolution, c'est que l'amour, il peut nous tomber dessus, alors que la révolution, on peut chercher à la faire.
Oui, mais la vraie révolution, c'est celle qui nous tombe dessus. Et je crois que toutes les révolutions nous sont tombées dessus. Sartre a écrit la Critique de la raison dialectique pour comprendre ce qu'a pu être cette révolution française à un moment donné qui s'est éveillée du côté du faubourg Saint-Antoine, hein, où personne n'a voulu la révolution, hein, personne n'a voulu la révolution. Non, ça n'était pas un projet, la révolution. Ça a été à un
oui,
moment donné
une exaltation collective. Oui, on ne sait pas dire à un moment donné telle date, on prendra la Bastille.
Absolument pas. Il n'y a pas eu concertation, il n'y a pas eu décision, il n'y a pas eu leader à ce moment-là. Il y a eu simplement une exaltation collective, une espèce de contamination, de contagion, d'émotions partagées qui a mis en cru.
Et c'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Michel Beignet, d'autant que on a distingué la souveraineté du pouvoir grâce à Bataille, on peut aussi distinguer la souveraineté de la volonté, mais aussi penser peut-être une forme de résonance avec aujourd'hui de Bataille, c'est-à-dire que finalement, que faire de tous les programmes politiques, de toutes les analyses politiques, dès lors qu'il y a une forme d'inconscient, d'involontaire, d'impossible de la politique, justement, à être conçue, à être pensée, à être projetée.
Bien sûr, mais je crois que l'actualité de Bataille, j'allais dire, hélas, est extrêmement prégnante aujourd'hui. On n'a pas parlé beaucoup de cette notion d'impossible qu'il travaille continuellement, mais cette notion d'impossible, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit chez Bataille, l'impouvoir, c'est Blanchot qui définissait l'impossible par l'impouvoir. Nous sommes confrontés, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des humains. Quand nous cesserons d'être humains, nous aurons conjuré sans doute cet impossible. Mais en tant qu'humains, nous sommes confrontés à des expériences de la limitation de notre pouvoir, hein, en permanence. Et on peut se faire des illusions, et souvent les politiques se font cette illusion de pouvoir supprimer les limites du pouvoir, mais en réalité nous sommes toujours confrontés à cette limitation de notre pouvoir. Et quelle forme prend la limitation du pouvoir dans nos sociétés? Bah, par exemple, notre impuissance par rapport au terrorisme. Notre impuissance par rapport au terrorisme désigne bien cet impossible. Le terroriste, pour nous, il est l'une des figures de l'impossible. Comment négocier avec lui alors même que la mort n'est pas pour lui une limitation? Comment négocier avec le kamikaze, avec le terroriste bardé de bombes? Ça, c'est vraiment l'emblème même peut-être de l'impossible dans nos sociétés, et on voit bien que aucune politique ne peut passer complètement à la trappe cette dimension-là. Alors on peut rationaliser les choses, on peut
attendre, parce que c'est ce que on est obligé de se dire. Si on lit Bataille, on attend.
On peut attendre. Il n'y a pas de solution toute trouvée. L'issue est toujours l'impossible. Et vous citiez tout à l'heure ce texte en disant à partir du moment où il y a de l'humain, il y a de la boue. Hein, et on est obligé de faire avec, d'une certaine façon, et peut-être de toujours miser sur une espèce de lucidité. Être lucide, c'est intégrer la composante d'impossible qu'il y a dans l'humain tant qu'il est humain. Hein, et ça ne donne pas de stratégie possible, et Bataille, c'est la pensée anti-stratégique par excellence, hein, mais cette lucidité, dans la mesure même où elle travaille au niveau des individus, hein, il n'est pas impossible qu'elle bouleverse l'économie générale de nos relations.
Why can't we live together? Tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we live together? No more wars. Why can't we live together?
Merci beaucoup Jean-Michel Beignet d'être venu nous parler de la politique de l'impossible de Georges Bataille. Je rappelle justement que Georges Bataille, la politique de l'impossible, c'est le titre de votre ouvrage qu'on peut lire aux éditions Cécile Defaux, qu'on peut lire aussi sur Bataille, de vous éloge, de l'irrespect, c'est aux éditions Descartes et compagnie. Et puis sur un autre sujet, mais qui trouve peut-être des liens avec Georges Bataille, on peut lire de vous L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile, et aussi Demain les postes humains, ces deux ouvrages sont disponibles aux éditions Fayard. Et bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez lire les œuvres complètes de Georges Bataille, elles sont toutes disponibles aux éditions Gallimard.
Everybody wants to live together. Why can't we live together?
Et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour la suite de notre expérience Georges Bataille. Et demain, j'aurai le plaisir de parler érotisme et transgression avec Philippe Sabot, professeur de philosophie à l'université Lille 3, auteur à propos de Bataille, de pratiques d'écriture, pratiques de pensée, figure du sujet chez Breton, Éluard, Bataille et Léris. un livre aux presses universitaires du Septentrion. Et quant à vous, chers auditeurs, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, la télécharger, la podcaster. Et en plus, vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.